18h30, 19h, La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Sologne, terre d'identité de qualité, le magazine éco-innovation sur Méga FM en partenariat avec le syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Ce soir, coup de projecteur sur le programme LEADER en Grande-Sologne. LEADER, acronyme pour Liaison entre Action de Développement de l'Économie Rurale, est un programme inscrit dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural qui a pour objectif d'appliquer une nouvelle politique de développement rural au niveau local. Autrement dit, LEADER permet de soutenir des territoires ruraux dynamique, organisé soit en parc national régional ou en pays, et porteur d'une stratégie de développement. Alors avec nos invités ce soir, nous allons savoir plus sur les projets spécifiquement liés au territoire de La Sologne est soutenu par LEADER. Et dans la première partie, en tout cas, nous allons essayer de savoir ce qu'est finalement LEADER. Tout d'abord avec vous, Marie Richard. Vous êtes animatrice et gestionnaire du programme LEADER Éco-Innovation en Pays de Grande-Sologne et conseillère technique à la Chambre d'Agriculture de Loire-et-Cher. Et vous-même, Adeline Asserin, vous êtes chargée de mission du programme LEADER Ressources 41 du pays Vendômois et du pays Beauce-Val-de-Loire. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Alors je me tourne tout de suite vers vous, Marie Richard. Est-ce que vous pouvez, voilà, en quelques mots, présenter à nos auditeurs ce qu'est LEADER, ce qu'est le programme LEADER, sachant qu'il y a eu un précédent avec un programme LEADER Plus?
Oui, en Grande-Sologne, déjà en 2002, le pays a relevé le défi en sollicitant des fonds européens dans le cadre du programme LEADER Plus. La thématique était la valorisation des ressources naturelles et culturelles. L'enveloppe qui avait été obtenue à l'époque était de 1 490 000 euros. Elle avait permis de soutenir environ 200 projets. Un des projets phares qui a été soutenu dans le volet coopération de ce programme a été la création du site Pilote 41 sur lequel nous reviendrons tout à l'heure.
D'accord, ce sera le témoignage de la seconde partie de cette émission.
Et suite à cette expérience réussie, le pays a été retenu dans le cadre du nouveau programme LEADER sur la thématique de l'éco-innovation.
Alors, si on reprend un petit peu donc l'histoire, hein, LEADER Plus s'est arrêté en 2008, hein, et donc le LEADER est relancé et jusqu'à quand en fait?
Jusqu'à 2015.
Jusqu'à 2015, d'accord. Et alors pourquoi cette thématique d'éco-innovation?
Alors l'éco-innovation sur notre territoire, c'est la thématique qui a été retenue. C'est en fait l'ensemble des innovations techniques et méthodologiques qui contribuent à une amélioration de l'état de l'environnement, c'est-à-dire au sens large les ressources naturelles, la biodiversité, le changement climatique, l'efficacité énergétique, le cadre de vie, le développement durable. Donc c'est une notion très large.
Alors quelles sont les compétences en fait d'un programme LEADER par exemple?
Alors sur notre territoire, contrairement aux autres territoires, nous avons toutes les mesures du PDRH. Le PDRH, c'est le programme de développement rural hexagonal, c'est-à-dire que nous avons quelques mesures ciblées, mais nous pouvons faire la plupart des mesures de ce programme.
Alors, d'autres précisions également sur ce programme LEADER. Comment ça fonctionne en fait quand on est porteur de projet? Quels sont les différents acteurs qui œuvrent pour les différents projets? En préparant l'émission, on parlait de GAL, un groupe d'action locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Marie?
Alors, le GAL, c'est donc le groupe d'action locale. Il est représenté par un comité de programmation. Ce comité de programmation pilote en fait le programme. Le GAL est composé de membres titulaires et de membres suppléants qui sont répartis en deux collèges, un collège public et un collège privé. Au niveau du territoire, il se réunit 2 à 3 fois par an. Et le président du GAL est Monsieur Patrice Martin-Lalande.
Concrètement, comment ça fonctionne quand il y a un projet à mener et qu'il doit être soutenu par le programme LEADER, Marie?
Alors, les projets LEADER doivent s'inscrire dans une démarche qui est basée sur une priorité. Donc, pour la Grande-Sologne, c'est l'éco-innovation. Les projets doivent être innovants, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une dimension nouvelle dans chaque projet. Il doit y avoir des partenariats qui peuvent être publics ou privés. Et on doit également avoir une démarche participative, c'est-à-dire que on doit avoir des personnes représentatives du territoire qui s'impliquent dans le projet.
D'accord. Alors si on reprend un petit peu la notion de territoire, le pays de Grande-Sologne, ça représente combien de communes?
25 communes.
25 communes. Et donc il faut réunir tous ces différents acteurs, en fait, hein, c'est bien ça, sur différents projets?
Suivant le type de projet, quand on peut avoir par exemple un projet sur le tourisme, on va avoir des acteurs d'une commune qui vont être réunis. Mm-hmm. si on a un projet sur la filière bois comme on a déjà eu pour Vilny, on va avoir des acteurs de la filière, l'amont et l'aval de la filière.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques actions qui ont été soutenues du coup par ce programme Leader?
Alors, un projet qui est très important, c'est le projet de l'éradication de la grenouille taureau. Donc, la grenouille taureau est une espèce invasive qui perturbe l'écosystème. Ce projet est porté par le SEBB. Chaque année, le SEBB, c'est le syndicat d'entretien du bassin du Beuvron.
D'accord.
Ce projet est vraiment très important au niveau du GAL Grande Sologne, puisque l'enveloppe qui a été réservée pour ce projet est de 197 000 euros.
Alors, d'autres projets soutenus également?
Un autre projet qui a été soutenu, c'est le projet de Vilny. Donc, à Vilny, en fait, il y a eu la création d'un réseau de chaleur bois qui dessert des bâtiments communaux. Donc, la mairie, l'école, la salle des fêtes, la maison du cerf, mais aussi des maisons de particuliers. Le projet innovant de Vilny, c'est qu'en fait, il y avait un approvisionnement local de la ressource et qui se réalise par l'intermédiaire de la SIC, la société coopérative. Et l'énergie, en fait, le bois est récolté localement.
D'accord.
Et ce projet a été financé à hauteur de 126 000 euros.
Des enveloppes importantes et on voit bien effectivement le côté innovant de ces projets aussi. Donc il faut impérativement qu'ils soient menés pour 2015 ou est-ce qu'ils pourront perdurer un petit peu?
Non, il faut que le programme soit terminé avant le mi-2015. Si les personnes veulent déposer un dossier, il faut faire très vite. Car 2015, ça sera vraiment la dernière échéance. Voilà.
D'accord. Alors, je me tourne vers vous, Adeline Asserin. Vous êtes chargée de mission du programme Leader Ressources 41 du pays Vendômois, pays Beauce-Val-de-Loire. Donc, un grand territoire, semblerait-il.
Oui, un très grand territoire, effectivement, par rapport au GAL Grande-Sologne, puisque nous, en fait, on réunit 150 communes sur deux pays. Donc, pour le pays Vendômois, ça représente à peu près l'arrondissement de Vendôme. Et sur le pays Beauce-Val-de-Loire, on est plutôt autour des cantons de Marchenoire et d'Ouzoir-le-Marché, ce qui représente en fait un territoire assez vaste autour du Nord-Loire, pour situer un petit peu les gens. Donc oui, c'est assez différent effectivement par rapport au GAL Grande-Sologne en termes de communes, et finalement pas en termes d'enveloppe, puisque en termes d'enveloppe, le GAL Ressources 41 a obtenu 1,5 million, donc un peu plus certes, mais finalement peu.
Si on ramène à l'habitant.
Exactement, si on fait le ratio au nombre de communes et au nombre d'habitants, on peut dire qu'en tout cas sur le GAL Ressources, on a moins d'argent.
Mince alors, mais autant de projets?
Finalement oui, autant de projets. Mais voilà, il y a des choix qui doivent être faits quand la situation est ainsi. Donc le choix qui nous a été fait dès en fait la rédaction de la candidature et de la convention quand nous avons été retenus à ce programme, eh bien c'est de faire des choix puisque si nous avions effectivement élargi le programme à des investissements, nous aurions effectivement pu clôturer le programme sur une année quasiment. Donc voilà. Il fallait faire quelques choix, resserrer certains critères de sélection également pour qu'on puisse mener à bien le programme sur la durée totale et donc aller effectivement jusqu'à la fin 2015 comme l'évoquait Marie Richard à l'instant.
Alors est-ce que comme Marie, vous pouvez nous donner quelques idées de projets qui ont été retenus donc soutenus par Leader?
Alors je pense à deux projets. Donc un premier projet qui a été mené donc à l'échelle du GAL, donc à l'échelle des deux pays, qui a été porté par le CAUE, structure départementale qui se situe à Blois, qui en fait est une étude prospective sur habiter la campagne au 21e siècle. Donc le but de ce projet était en fait de réfléchir à ce qu'est la campagne aujourd'hui et ce qu'elle sera demain. Donc avec toutes ces belles choses soit, mais aussi les complexités que ça peut amener aujourd'hui de vivre à la campagne en termes de déplacement, en termes de travail également,
aussi,
d'habitat. Voilà, donc c'était une réflexion globale. qui aujourd'hui alors est arrivé à son terme dans une première phase, mais qui va voir une suite donnée, puisqu'en fait les acteurs du territoire, aussi bien les acteurs publics que privés, sentent effectivement que c'est une préoccupation très importante, certes à l'échelle du territoire de Segal, mais qui finalement est une préoccupation nationale voire internationale.
D'accord. Et puis un autre projet éventuellement?
Oui, alors je pense à un autre projet, c'est effectivement un projet qui lui a été mené plus sur le pays vendômois, qui s'appelle en fait Programme National de l'Alimentation, qui est né, c'est un appel à projet auquel le pays a répondu. Donc cet appel à projet est né d'un sous-groupe de travail au PNNS, donc au niveau national.
Alors le PNNS?
Programme Nutrition Santé.
D'accord.
Donc les gens... ça parle un petit peu, puisqu'il y a pas mal d'opérations qui ont été menées, notamment dans les écoles, le goûter, les choses comme ça. 5 fruits aussi, enfin un fruit à la récré, ça faisait aussi partie de tout ça. Et on a notre présidente de pays vendômois qui est très impliquée dans ce programme, puisqu'elle faisait partie de ce sous-groupe, et donc elle avait souhaité que le pays réponde à cet appel à projet, et donc nous avons été retenus. Et donc plusieurs actions ont été menées par la suite avec différents acteurs. Donc comme le disait Marie tout à l'heure, là c'est vrai qu'on a un jeu d'acteurs qui est très large, puisqu'on a une association qui est basée en fait sur l'île, mais qui travaille donc à l'échelle nationale, qui travaille plus sur la mutualisation d'achats. On a également la Chambre d'agriculture de Loire-et-Cher qui a travaillé sur ce projet pour rédiger des fiches de référence, pour derrière en fait dégager des pistes pour acheter en circuit court au niveau des cantines scolaires, puisque là on avait ciblé dans ce programme des petites structures. Donc on était vraiment dans des communes de petite taille, et donc dans des syndicats ou des cantines, voilà, autour de 50 à 60 repas par jour.
D'accord. Alors on sent à vous entendre, hein, toutes les deux, que finalement ces projets qui émergent fédèrent beaucoup d'énergie, de dynamisme en fait de tous les acteurs locaux.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que finalement ce programme Leader est une sorte de levier pour les projets territoriaux?
Oui, je pense que c'est vraiment ce qui le caractérise le plus. C'est l'effet levier, puisqu'effectivement ce sont des projets qui émanent et qui bénéficient de ces fonds. Alors bien sûr, il n'y a pas que forcément les fonds Leader, il y a d'autres fonds qui viennent se greffer, mais c'est vrai que voilà, l'initiative est souvent portée par cette impulsion Leader qui est donc suivie et qui se décuple au fur et à mesure que le projet grandit.
Alors 2015, l'échéance arrive gentiment, c'est demain, hein, 2015. Est-ce qu'on peut prévoir un autre programme Leader pour de nouveau 2015-2020, pourquoi pas?
Alors c'est dans les tuyaux du ministère. Il y aura effectivement une future programmation. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas vraiment de détails, mais en tout cas, il y aura une prochaine programmation Leader. Sous quelle forme aujourd'hui,
ce sera encore
flou,
bien
voilà,
sûr.
Mais il y aura, et je pense effectivement que les deux gales concernées aujourd'hui seront tout à fait prêts.
Et puis déjà aguerris quand même finalement avec que ce soit le pôle d'excellence rurale, Leader Plus, enfin voilà, c'est quand même un dynamisme qui s'est inscrit, qui s'est instauré et qui ne demande qu'à perdurer au final. Hein.
Tout à fait, puis c'est aussi maintenant des outils qui deviennent familiers aux acteurs du territoire, que ce soit des acteurs publics ou privés. Donc voilà, c'est vrai que on n'a pas envie de se séparer des fonds Leader tout de suite.
ça se comprend tout à fait. Alors on va marquer une pause si vous le voulez bien, et puis dans la seconde partie de cette émission, nous verrons d'autres projets. Ce sera un peu le témoignage notamment de Jacques Laure, qui est maire de Pierrefitte-sur-Sauldre, et de Lionel Henry, directeur de l'Observatoire économique et des territoires de Loire-et-Cher. On marque une petite pause, on se retrouve tout de suite après.
18h30, 19h, le magazine Éco-Innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Suite de notre magazine La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine Éco-Innovation sur Méga FM en partenariat avec le syndicat mixte du pays de Grande-Sologne, consacré ce soir au programme Leader. Alors, avec nos précédentes invitées, nous avons pu cerner un petit peu ce qu'était ce programme Leader et puis surtout le champ d'action qui était mené avec cette aide, effectivement. Et nous allons voir en seconde partie d'émission, eh bien, des témoignages d'opérations, de projets qui ont pu bénéficier d'une subvention leader. Alors, je me tourne vers vous, Jacques Laure. Vous êtes maire de Pierrefitte-sur-Sauldre, vice-président du pays de Grande-Sologne et vice-président de la communauté de communes Sologne des Rivières et chargé des affaires générales. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous-même, Lionel Henry, vous êtes directeur de l'Observatoire économique et des territoires de Loire-et-Cher. Alors, vous avez l'un et l'autre, donc, un projet qui a pu voir le jour grâce, en tout cas, à cette subvention leader. Alors, Jacques Laure, il s'agit d'un projet de film qui s'appelle Entre Ponts. Alors là, on est dans l'éco-innovation. Expliquez-nous, justement.
Eh bien, écoutez, ça remonte donc à l'an dernier. Il s'était constitué à Pierrefitte une commission de patrimoine. Mmh. Et le village voisin, Souhem, avait déjà travaillé il y a quelques années sur le patrimoine solognaud. Et j'avais été admirablement surpris de voir ce qui s'était passé. Donc j'avais encouragé notre village, Pierrefitte, à les imiter. Donc au cours de discussions entre ces deux commissions de village, avait germé la possibilité de travailler en commun sur un projet réunissant nos deux villages. Et qu'est-ce qui réunit nos deux villages? Eh bien c'est le pont qui traverse la Sauldre qui est la frontière entre nos deux villages. Et c'est vrai que ce pont a fait l'objet de chamailleries continuelles entre les deux villages.
Une véritable légende,
voilà.
Semble-t-il.
Qui allait payer les frais de réparation? Et c'est une affaire qui remonte quand même aux années 1650-1680. Donc, au fil des ans, les chamailleries ont continué, qui allait payer la moitié des frais, les frais, etc. Et il faut dire que ce pont y est en bordure de Pierrefitte, alors que Souhem, qui se trouve à 6 kilomètres, l'utilise que peu souvent ce pont. Bref, nos deux commissions se sont réunies et se sont dit comment on va illustrer cela. Et l'idée d'un film a germé. Mmh. Elles ont fait œuvre d'historien, mais d'historien à la fois extrêmement pointu, puisque les recherches ont eu lieu jusqu'aux archives nationales, départementales bien sûr. Il y a eu des entretiens avec des archéologues, avec des historiens, et émergé un scénario. Alors ce scénario, comment faire?
Eh oui, entre le scénario et la réalisation, voilà.
Voilà. Et nos amis se sont mis en route à la recherche d'une véritable équipe de cinéastes professionnels. Mm-hmm. Et a fallu trouver des acteurs, donc des acteurs naturellement, des acteurs locaux. Et on a fait appel donc à la population de Pierrefitte et à la population de Souhem, aux différentes associations, les associations du troisième âge, aux écoles. Puis, une fois que le scénario était bâti, il a fallu donc passer au tournage du film, ce qui a entraîné une exposition de photos. Et puis, on a fait appel, enfin, les commissions ont fait appel aux artistes locaux. Mmh. Les artistes locaux, et parmi ces artistes, il y a eu la confection d'une bande dessinée, et puis d'une maquette de pont. Qui a été exposé, voilà. Donc, à travers ce projet qui paraissait anodin au départ, s'est greffé un tas d'activités et surtout un lien social extraordinaire. Mmh. D'abord, ça a mis en relation nos deux villages et des gens qui s'ignoraient totalement. Vous savez bien, ces conflits de villages, comme il y en a partout.
Les guerres de clochers. Hein,
voilà. Et les gens ont découvert que la vérité n'existait pas dans leur village, mais que chez le voisin, ben c'était pas si mal que ça. Donc il y a eu ces relations inter-villages, mais il y a eu aussi des relations intergénérationnelles, puisque les enfants des écoles ont participé, l'accueil de loisirs a participé, il y a eu des rondes autour du pont, les personnes âgées ont communiqué avec les enfants. Donc, je trouve que là, il y a eu un projet extraordinaire, donc de recherche historique. Mais quand je dis recherche historique, j'ai trouvé que c'était une recherche extrêmement pointue. Donc, œuvre culturelle, mais aussi œuvre relationnelle, puisque le lien social s'est refait, s'est retendu, et on parle maintenant, on parle sur de nouveaux projets cette fois encore, on ne manquera pas de faire appel au fonds Leader.
Alors justement, quand il a fallu mettre en place ce projet, comment a-t-il été accueilli par Leader, en fait, hein, par les acteurs qui portent ce programme Leader?
Bien, écoutez, donc vous avez interrogé tout à l'heure Marie Richard qui est responsable du projet. Donc je lui ai exposé notre projet et elle a trouvé que ça rentrait dans le programme puisque c'est un projet innovant. Mm-hmm. Parmi lequel on encourageait les relations, on faisait appel à la population. Il y avait une implication des collectivités locales, mais il y avait aussi une implication de privés dans l'affaire. Et donc ça correspondait à l'esprit de Leader qui cherchait à développer en zone rurale des projets innovants qui ancraient cette solidarité dans le sol de notre Sologne. Voilà.
Alors, ce film a été projeté pour les Journées européennes du patrimoine. Est-ce qu'on peut encore le voir sur comment fait-on pour le revoir, ce film? Il faut qu'il perdure quand même.
Oui. Alors, il y a eu des cassettes qui ont été éditées, et puis je pense qu'ils sont sur les sites de nos villages, de Pierrefitte. Je ne sais pas s'il est sur le site du pays, mais ça ne saurait tarder
si jamais ce n'était pas le cas.
Voilà.
Et alors, du coup, ça a nourri d'autres projets. Alors, on va peut-être pas en parler là maintenant, mais on sent quand même que cette dynamique, c'est vraiment enclenché.
Voilà. Donc, il est en train d'émerger un projet sur l'école, puisque nos deux villages sont liés aussi par l'école, sont liés par les centres de loisirs. Donc, il est en train d'émerger ce projet, et je pense que d'ici quelques mois, on va refaire appel parce que c'est un projet qui me tient également beaucoup à cœur.
Exactement. Alors, je me tourne vers vous, Lionel Henry. Vous êtes directeur de l'Observatoire économique et des territoires de Loire-et-Cher, plus précisément l'Observatoire 41. Alors, expliquez-nous un petit peu cette. Alors là, on passe. C'est un tout autre projet en tout cas, mais néanmoins avec un dynamisme également, et puis beaucoup de choses qui vont être très très intéressantes. Expliquez-nous un petit peu cette démarche.
Voilà, donc un mot de l'Observatoire, hein, qui est une structure originale, puisqu'il y en a deux comme ça en France, sous forme associative, et avec un spectre d'observation, un champ d'observation qui est très large, puisque finalement ça concerne pratiquement tous les aspects de la vie des citoyens.
D'accord.
Voilà pour l'Observatoire. Alors, le projet dont on va parler aujourd'hui est né il y a quelques années, et il est né par le bas, c'est-à-dire que c'est une demande qui émanait des différents territoires, des pays, qui avaient, pour la reconduction de leur contrat avec la région, mm-hmm. contrat de pays, avaient à mettre en place des agendas 21 et à réfléchir également à toute l'information qui pouvait être associée à ces agendas 21 dans une perspective de développement durable, mm-hmm. pour finalement avoir un maximum de données fiables, actualisables, pour mieux savoir où on se situe et mieux comprendre comment on évolue localement. Donc les pays ont demandé à l'Observatoire s'il y avait la possibilité d'apporter des données précises sur ces thèmes du développement durable, et ça a donné lieu donc à une proposition qui a été présentée dans les différents comités de programmation, parce que ce projet a une particularité, c'est qu'il est fait à l'échelle du département de Loire-et-Cher tout entier. Donc il couvre les trois galles du département, et il s'adresse aussi au territoire urbain, donc autour en gros de la ville de Blois, qui n'est pas éligible au programme Leader, mais à la fois l'agglomération de Blois pour la partie urbaine de Blois, et puis une autre communauté de communes qui avait aussi une des communes urbaines de Blois dans son périmètre, ont accepté d'accompagner les programmes Leader. Donc c'est un programme tout à fait particulier qui couvre l'ensemble du département, mmh. et qui est porté par trois galles et deux collectivités locales.
D'accord, donc un grand rayonnement en fait.
Un grand rayonnement, effectivement. Ouais. Donc un projet assez ambitieux.
Donc en fait, si on comprend bien, c'est une sorte de veille économique en fait. Ça permet d'avoir des informations précises sur ce qui se passe sur ces territoires, mais sur différents niveaux en fait.
Voilà, alors dans une optique bien précise, qui est celle du développement durable, et dans la perspective aussi d'accompagner les démarches d'agenda 21 qui sont mises en place dans les différents territoires.
Alors, est-ce qu'on peut repréciser un petit peu ce qu'est l'agenda 21 ?
L'agenda 21, voilà. En fait, c'est une démarche, citoyenne, qui est menée à l'échelle des territoires. Donc, ça peut être soit une collectivité locale, une communauté de communes, ça peut être une commune, tout simplement, ça peut être aussi un département tout entier, ou une structure. Et en l'occurrence, là, les agendas 21 dont il était question sont portés par les pays, hein, dans la perspective de la reconduction de leur contrat avec la région. Et ces démarches visent à essayer de programmer, de planifier, de voir plus précisément les orientations pour que on puisse avoir un développement des territoires respectueux des grandes prérogatives qui sont demandées en matière de développement durable.
Alors concrètement, sur le terrain, comment ça se passe ?
Voilà, donc nous on a proposé trois choses finalement. La première, c'était d'accompagner les réunions, les groupes de réflexion locaux pour la mise en place de ces agendas 21, de manière à bien comprendre quelles étaient les préoccupations locales, parce que d'un territoire à l'autre, il y a beaucoup de points communs évidemment, mais il y a aussi des accents qui sont mis localement et qui sont pas le fait d'autres territoires. Donc pour bien comprendre quelle est la demande locale. Deuxième point, c'est essayer de répondre aussi avec des indicateurs, des informations chiffrées, précises, évolutives, pour bien comprendre, bien aider à faire émerger aussi les évolutions dans tous ces domaines. Ça permettra ensuite d'accompagner l'évaluation qui pourra être faite des différentes actions qui auront été menées. Et puis il y a un troisième point qui a aussi émergé au fil des discussions, qui est le recensement des actions locales innovantes en matière de développement durable. Alors ça peut être simplement, une commune qui décide de ne plus utiliser de pesticides, à un autre territoire qui décide de promouvoir un habitat respectueux des nouvelles normes qui se mettent en place. Donc la palette là des actions est extrêmement large. Donc cette dernière partie est toujours en cours.
D'accord. Et alors, ça va perdurer combien de temps ? Parce qu'on parlait de 2015, on suppose que ça va être en perpétuel ajustement, en fait.
Voilà. Donc, le propre des dossiers des projets leaders, en fait, tout à l'heure, vous évoquiez avec les animateurs leaders des effets de levier. Effectivement, c'est tout à fait le cas, parce que c'est typiquement un projet qu'on n'aurait pas pu porter seul à l'Observatoire, même si l'intérêt est évident. Donc, ça nous aide à pouvoir le mener à bien. L'idée de départ, c'est de défricher, en fait, de mettre en place, d'imaginer ce que pourront être ces outils. Une fois qu'ils sont en place, ensuite, à l'Observatoire reviendra la charge de les actualiser, de les intégrer dans ses propres outils. Donc, le programme leader là permet de créer quelque chose de nouveau et d'innovant, parce que ce type d'outils n'existe pas à l'échelle d'un département tout entier.
Donc on s'aperçoit quand même, à travers, on parlait de l'effet levier, le rayonnement est surtout la diversité des projets qui sont menés, que ce soit la chaudière bois à Vilny, que ce soit Entrepont, que ce soit l'Observatoire 41, que ce soit encore avec Ressources 41 dont nous a parlé Adeline Asserin tout à l'heure. Différents projets, on peut dire que grâce à Leader, des choses ont pu se construire, hein.
Oui, pour la partie observatoire, tout à fait. On peut même donner un exemple qui a été évoqué tout à l'heure, je crois, très rapidement. Dans un précédent programme, donc c'était Leader Plus, l'observatoire, toujours à l'écoute des territoires, avait souhaité mettre en place une plateforme accessible via le net, en fait une sorte de portail. Qui depuis s'appelle Pilote 41, qui existe et qui est pratiquement le seul exemple en France d'un site extrêmement riche d'informations locales, donc entièrement dédié à l'information locale sur les territoires, les différents territoires.
Donc vous êtes un interlocuteur, en tout cas une interface importante en fait entre les animateurs du programme Leader et les acteurs du territoire.
On travaille très bien ensemble, effectivement. Oui. Et les animateurs leaders se font aussi l'écho des différentes initiatives. On est quand même amené très souvent à les rencontrer, à travailler avec eux.
Donc ce qu'on peut dire finalement en résumé, c'est que ce programme Leader est un effet levier, il insuffle et en tout cas il permet au dynamisme des territoires de pouvoir finalement apporter quelque chose de concret, de concrétiser des projets. Et puis je pense que on continuera d'en entendre parler puisque visiblement dans certains tuyaux il peut y avoir une prolongation en tout cas de ce type de programme Leader. Alors Leader ou pas, en attendant il y aura forcément peut-être une suite à donner et on ne manquera pas d'en faire bien évidemment le relais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir assuré cette deuxième partie et d'avoir surtout apporté vos témoignages. Donc, je rappelle que l'émission est à retrouver en intégralité sur le site de MegaFM, www.megafm.fr, ainsi que sur le site du syndicat du pays de Grande-Sologne. Merci beaucoup et excellente soirée sur MegaFM.
C'était La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne de MegaFM.